Vous écoutez RTL.
Il est 9h01.
Vous êtes bien sur RTL, première radio de France.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Vanessa Paradis est une des actrices de la semaine. Elle sera mercredi à l'affiche du film Un couteau dans le cœur. Ses confidences dans un instant au micro de Stéphane Boutsock. Nous ferons connaissance au rayon polar avec Agatha Raisin, une nouvelle détective née sous la plume d'une auteure anglaise et qui est en train de conquérir la France, un phénomène d'édition expliqué par Bernard Lehu. Nous vous offrirons deux enquêtes d'Agatha Raisin au 32-10. Le musée Matisse de Nice réunit Picasso et Matisse, une exposition événement en jeu de miroir qui met en scène le dialogue artistique entre les deux peintres. Visite guidée à suivre avec Sophie Orange. Nous n'oublierons pas nos express du jour préparés par Aymeric Partonneau. Et puis à la télévision ce soir, démarrage sur Canal+, d'une nouvelle série australienne Picnic à Hanging Rock. Ce sera l'un des choix d'Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Une rencontre donc pour commencer avec Vanessa Paradis. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour à tous.
Ce sont les confidences de la comédienne que vous nous proposez à l'occasion de la sortie mercredi du film Un couteau dans le cœur, réalisé par Yann Gonzalez, film qui avait animé la fin du dernier festival de Cannes.
Oui, plutôt, oui. Horrifique, onirique, poétique, romantique, Un couteau dans le cœur se passe à la fin des années 70. On est dans le milieu du porno gay. Mm-hmm. Une productrice de films X, on disait comme ça à l'époque, tente de reconquérir la femme qu'elle aime alors qu'un terrible tueur masqué décime ses acteurs dans des mises en scène sexuelles, macabres et sanglantes. Anne, cette femme complexe, c'est donc Vanessa Paradis, encore surprise d'avoir reçu ce type de proposition.
Je me dis, mais quelle chance d'être celle qui a ce scénario entre les mains et ce rôle. Voilà, c'est une femme décapante, c'est une femme très très riche, d'un caractère quand même bien trempé. C'est une femme qui a plein de travers aussi, qui est alcoolique, violente. Et puis elle est désespérée parce que avant tout ce film c'est une histoire d'amour, c'est une grande histoire d'amour. Elle n'est gérée que par ça d'ailleurs. Elle essaye de faire des choses pour récupérer son amour et elle est maladroite et elle est vraiment haute en couleur. Donc j'étais assez impressionnée par elle, je me demandais un peu comment j'allais m'y prendre et j'ai été très heureuse et très surprise qu'il pense à moi pour jouer. Et je me suis tellement amusée, je crois, ouais, c'est le mot, même s'il y a des choses difficiles à faire, amusée à jouer cette femme.
Bon, alors, autant dire que le film de Yann Gonzalez n'est pas à mettre entre tous les yeux. Hommage au cinéma fantastique et baroque italien des années 70, il y a un soupçon de Palma, un zeste de Zulawski, film à la fois violent, dérangeant, déroutant, ça peut choquer les plus jeunes spectateurs. J'avoue que je suis assez partagé quant à la réussite globale du projet,
ah bah,
mais
ça, on l'a compris.
Comme on dit, il y a une vraie proposition de cinéma. Le film, en tous les cas, fait réagir et c'est déjà pas mal. Mmh. Et pour Vanessa Paradis, le personnage de Anne est l'occasion d'une vraie performance physique jusque dans son look.
C'est vrai que de créer cette silhouette, je porte une perruque dans le film, donc de couvrir ma tête comme ça avec ce blond platine, ses bottes rouges aux pieds, déjà ça donne beaucoup l'attitude de son personnage. Et puis après, bah, évidemment, il faut jouer, il faut parler, il faut créer du son, mais c'est fou ce que ça fait. D'enfiler le costume de son personnage. Tout d'un coup, on est ailleurs, on n'est plus chez soi.
Un couteau dans le cœur est le cinquième film dans lequel joue Vanessa Paradis en annonce. C'est beaucoup. C'est un choix, Stéphane ?
Non, c'est plutôt un enchaînement de propositions qu'elle ne voulait surtout pas refuser. Ajouté au fait que Vanessa avait le temps de tourner avant la sortie de son prochain album, on en reparlera. Mais c'est vrai que 5 films en un an, rendez-vous compte, c'est presque un quart de l'ensemble de sa filmographie.
C'est un métier que j'ai toujours fait en alternance avec la musique. C'est une grande chance de ne pas avoir avoir à choisir entre ces deux métiers. J'aime la musique par-dessus tout dans ces deux métiers, mais quand j'ai terminé de faire un disque, de le sortir, de faire des concerts, tout ça, ça prend 3-4 ans. C'est vrai que j'aime tellement me retrouver sur un plateau de cinéma et de raconter l'histoire de quelqu'un d'autre. J'ai mis du temps à trouver ce rythme et puis peut-être aussi à trouver les sujets, à trouver les films. Parce que quand on fait ce métier comme ça à mi-temps, on n'est plus regardant sur le choix, quoi. Il faut que ça soit assez complet, quoi, le projet qu'on accepte.
Alors, si on regarde en détail ce parcours d'actrice, 30 ans de cinéma quand même l'an prochain pour Vanessa Paradis, on note des marqueurs importants, Noce Blanche, Elisa, La fille sur le pont, L'arnaqueur ou encore ces dernières années Sous les jupes des filles.
J'ai pas fait tous les films que j'aurais envie de faire parce qu'il fallait faire des choix avec cette vie, justement. Mais moi, j'en suis très heureuse de ce parcours de cinéma. Dans les premières années, j'ai travaillé avec les plus grands acteurs français. Je tenais la réplique à Gérard Depardieu, à Jeanne Moreau, à Belmondo, Daniel Auteuil. C'était incroyable d'apprendre ce métier devant ses regards. Et puis, Patrice Lecomte et Jean Becker. Et puis, alors là, faudrait pas que je me mette à citer les metteurs en scène parce que je vais en oublier, ça serait dommage. J'ai eu de la chance, j'ai travaillé avec des grands metteurs en scène à travers le monde. On apprend aussi beaucoup de la vie sur un plateau de cinéma.
Elisa, 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 saute-moi au cou. Elisa,
Elisa, la chanson de Serge Gainsbourg, bande originale du film de Jean Becker. C'était en 1995. Oui. Alors tiens, puisqu'on parle de musique, Stéphane, avez-vous parlé de son prochain album avec Vanessa Paradis?
Alors, j'ai essayé, album annoncé comme épuré et folk avec, dit-on, c'est une indiscrétion de mon camarade Steven Bellery, des textes signés Adrien Gallo, des Bébés Brunes et de Samuel Benchetrit, futur mari de Vanessa Paradis. Le mariage est prévu cet été. L'intéressé ne confirme pas, mais annonce en tout cas un premier extrait de ce 7e album studio pour bientôt.
À la fin de l'été, oui. Je ne l'ai pas terminé, ce disque, alors c'est difficile d'en parler avant qu'il soit terminé, mais par contre, il sera terminé au mois de novembre, il sortira au mois de novembre. J'en suis plutôt contente pour l'instant, mais c'est pas terminé, il reste plein de choses à faire dessus.
Quitte à te paraître sûr de moi, je vais t'emmener.
Et en attendant le nouvel album de Vanessa Paradis, ce titre de 2013, Bye Bye, en duo justement avec les Bébés Brunes, pour le cinéma. Donc vous notez bien la sortie du film Un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez. Ça sort sur nos écrans après-demain.
Merci pour cette rencontre avec Vanessa Paradis, Stéphane Bonnet. On va passer maintenant à nos audiences télévisées du week-end avec Médiamétrie, Isabelle Morini-Bosque.
Eh bien, vendredi, nette victoire de M6 avec la série Bull. 3 400 000 curieux ont plébiscité ce docteur Jason Bull qui devance subséquemment nettement Candice Renoir. C'est une rediffusion. Samedi, c'est le foot qui rafle tout. 6 800 000 fans et 38% du public sur la 2 ont suivi. Donc, c'était le triple du deuxième qui était Fort Boyard. Même succès hier pour la rencontre Colombie-Pologne. 6 700 000 fans sur la 2 toujours. Les joueurs laissent le beau commissaire Dupin loin derrière, 3 600 000 fidèles. On fera le point foot complet demain avec les audiences de Bein Sport.
Je compte sur vous. Dans quelques instants, nos express avec Émeric Partonneau et puis ensuite, on va faire un petit tour dans la littérature avec M. Bernard Lehu.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Les express LVT.
On va retrouver dans un instant, oui. Auparavant, on a eu une légère absence, vous et moi, concernant le football.
Et c'est moi qui m'en suis rendu compte, là je suis vraiment dyslexique, parce que je pensais TF1 et j'ai dit la 2. C'était Fort Boyard qui était sur la 2.
Donc c'était sur TF1 et il y avait 6 millions de téléspectateurs.
À mon camarade.
Les Express LVT.
Un jingle, c'est magnifique. Nos Express du jour sont préparés par Émeric Partonneau de la rédaction de RTL.fr. Bonjour Émeric.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Bienvenue.
Bienvenue. On commence avec un record, cher Émeric.
Oui, un record de fréquentation pour Solid Days pour son 20e anniversaire. Le festival a accueilli près de 212 000 festivaliers à l'hippodrome de Longchamp ce week-end. Une bonne nouvelle pour la lutte contre le sida, puisque les bénéfices de Solid Days sont reversés à cette très bonne cause.
Yarol Poupeau, le complice de Johnny Hallyday, se lance en solo.
Oui, alors il faut l'appeler Yarol maintenant.
Oui, Yarol. Bonjour Yarol.
Pour ce nouveau projet, le guitariste du groupe FFF ou des dernières tournées de Johnny Hallyday prépare son premier album attendu à la fin de l'année. Le premier extrait vient d'être dévoilé. Il s'agit d'une chanson en anglais, très rock, qui s'appelle Boogie With You. Le premier single de Yarol, donc tout court, une chanson qu'il avait déjà interprétée avec Black Minou,
Black
un
Minou.
De ses anciens groupes. Yarol dévoilera à la rentrée un deuxième extrait en français, c'est promis.
Merci Yarol. Un peu de cinéma maintenant avec le retour de Xavier Dolan devant la caméra.
Oui, le réalisateur québécois qui a pour habitude de jouer dans ses propres films sera au casting de Ça 2, la suite de l'adaptation du roman de Stephen King avec, vous savez, le clown diabolique. Mmh. Xavier Dolan avait qualifié le premier volet de meilleur film du siècle sur Twitter. Donc il doit être aux anges.
Il est un peu forcé sur la vodka.
Oui, il n'abandonne pas la réalisation pour autant. On attend avec impatience son prochain long métrage, très long métrage normalement, Ma vie avec John F. Donovan qui devrait sortir cet automne.
D'ailleurs, dans ce prochain film, on retrouve un certain Kit Harington au premier rôle.
Oui, Kit Harington alias Jon Snow, vous savez, le héros de la série Game of Thrones.
Il s'est marié ce week-end.
Il a épousé Rose Leslie, ils se sont rencontrés sur le tournage de la série. Leurs personnages sont les seuls qui vivent une histoire d'amour à peu près saine et romantique dans la série. Hein. Les fans ont adoré que la fiction se confonde avec la réalité ce samedi. Ils aimeront un petit peu moins la terrible conséquence de ce mariage, c'est que la production de la saison 8 a été stoppée. Le couple avait invité toute l'équipe.
Mais bien sûr. Qu'ils
y aillent. En attendant, les dévoreurs de séries pourront profiter d'un autre grand succès, La Casa de Papel. If I stay with you, if I'm
choosing wrong, I don't care, I don't... La série hispanique triomphe sur Netflix depuis plusieurs mois. Elle vient d'être renouvelée pour une troisième et une quatrième saison. Tournage en novembre, date de livraison 2019, c'est un peu flou. Hein. Vous avez jusque-là pour rattraper les 22 épisodes palpitants des deux premières saisons.
Merci beaucoup Aymeric, c'était les Express de Laissez-vous tenter. Bernard Lehu, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, plutôt good morning.
Yes.
Car vous nous présentez ce matin la nouvelle détective venue d'Angleterre qui est en train de conquérir la France qui lit.
Elle s'appelle Agatha Raisin. Oui. Agatha. Mmh. Bah, clin d'œil bien sûr à Agatha Christie. Agatha Raisin, ce serait Miss Marple, la célèbre enquêtrice de la Reine du Polar anglais. Mais alors en version moderne, loufoque, gaffeuse et cougar, un personnage atypique plébiscité par ses lecteurs et lectrices, comme par exemple Capucine.
Agatha fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Elle vient avec ses grosses chaussures, ses gros sabots, elle dit tout ce qu'il ne faut pas dire. Elle a bon fond en fait, elle veut montrer, elle montre une partie d'elle-même très dure. Et en fait, c'est quelqu'un de très attachant. Et au fur et à mesure des pages, on apprend à la découvrir. Et rien que pour ça, il faut lire Agatha Raisin pour découvrir le personnage.
Ah oui, c'est bien vrai. Les premières enquêtes d'Agatha Raisin sont sorties en France il y a 2 ans. Ouais. Succès croissant, vrai phénomène d'édition. Hein. Dès leur première semaine de parution, les deux derniers crus, là, ils sont sortis, je crois, il y a une dizaine de jours, L'Enfer de l'amour et Crime et déluge, se classent déjà aux 5e et 7e places des meilleures ventes.
Bah alors, se pose la grande question, c'est qui est cette Agatha Raisin?
Alors, elle est londonienne, quinquagénaire, quelque peu délurée. Mais elle plaque tout pour aller vivre dans un charmant village de la campagne anglaise.
On la comprend.
Mais alors, dans son sillage, se multiplie les meurtres, qu'elle élucide à sa manière, peu orthodoxe. Le ton humoristique a été donné dès la première de ses enquêtes, la quiche fatale, titre collector, j'adore. L'arme du crime y était une quiche empoisonnée. Et outre-Manche, Agatha Raisin est devenue un véritable trésor national.
Et à qui doit-on cette détective hors norme?
À une écossaise, alors avec une irrésistible allure de vieille dame indigne, M.C. Beaton, 82 ans, de son vrai nom Marion Chenet, qu'apprécie beaucoup évidemment son éditrice française, Anne Michel.
Oui, c'est une grande francophile et qui est vraiment enchantée et extrêmement émue d'être enfin connue des lecteurs français. Elle et son mari ont un appartement à Paris. Ils avaient même acheté à un moment un château dans le Cantal. Elle adore la France. C'est une vieille dame indigne, extrêmement drôle. Son regard décalé sur la vie, il transparaît dans cette série et c'est ce qui en fait absolument le charme et le côté addictif. On a envie de se retrouver dans cet univers parce qu'à la fois il a le côté confortable des petits villages anglais, mais il est dynamité par cet humour de Marion qui lui donne une énergie folle.
Alors sous différents pseudos depuis les années 70, Marion Chenet, 82 ans donc, a publié près de 150 romans, dont ces 15 dernières années, une trentaine d'Agatha Raisin, comme une de ses célèbres consoeurs, l'américaine Mary Higgins Clark, qui était devenue veuve. C'est pour subvenir aux besoins de sa famille que Marion Chenet, alias M.C. Beaton, s'est mise à écrire.
Quand elle était jeune avec son mari, ils sont partis s'installer aux États-Unis, ils crevaient la faim. Et à un moment, elle a eu cette idée de commencer à écrire des romans. D'abord, des romans un peu à la Jane Austen, des séries sentimentales. Et puis ensuite, très vite, des polars. Ce qui était aussi son univers parce qu'elle avait été longtemps journaliste et journaliste d'investigation dans les journaux, dans un journal à Glasgow.
Mais alors, pourquoi la France ne découvre-t-elle que Marion Chenet que maintenant et les enquêtes d'Agatha Raisin?
Ah ben ça, mon brave monsieur, ce sont les mystères de l'édition. Car en Grande-Bretagne, Agatha Raisin est devenue une institution. C'est et Marion Chenet, à 82 ans, est une star de la scène littéraire. Anne Michel, son éditrice française, raconte sa découverte tardive donc d'Agatha Raisin.
C'est grâce à un lecteur fanatique de Agatha que un jour on m'a dit tiens, lis donc cette série. Mais au départ, je m'apprêtais à la refuser parce que 15 ans après, je me suis dit voilà, ça sent le réchauffé. Et puis ce qui s'est produit, c'est que j'en ai pris un par acquis de conscience et que dans mon week-end, j'en ai lu un, puis deux. Et puis j'ai été achetée sur Kindle les deux suivants parce que je voulais rester dans cet univers. Et je me suis dit si ça crée un tel phénomène d'addiction chez moi, ça peut créer un phénomène d'addiction semblable chez les lecteurs. Voilà. Mais je pense aussi que c'était le bon moment pour Marion parce que il y a eu tout un regain d'une certaine Angleterre à la Downton Abbey qu'on aime et qui avait été peut-être un petit peu ignorée dans les 10 années précédentes.
Anne Michel, heureuse éditrice de Marion Chesnais, alias MC Beaton, l'auteur des enquêtes d'Agatha Raisin, où le suspense qui fait sourire, le polar qui fait du bien, le feel-good mystery, comme disent les Anglais.
Magnifique. Voilà. Totally friends.
Totalement. Alors, on vous offre ce matin les deux nouvelles enquêtes d'Agatha Raisin, L'enfer de l'amour et Crime et déluge, publiées chez Albin Michel, si vous répondez à la question que vous pose Bernard.
Eh bien, quel est l'âge de Marion Chesnais, alias MC Beaton, la créatrice d'Agatha?
Votre réponse au 3210. Sophie Orange, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes extrêmement bien accompagnée ce matin. Henri Matisse et Pablo Picasso, voilà, pour une exposition événement au musée Matisse à Nice.
La comédie du modèle, l'un des rendez-vous les plus importants du gigantesque programme Picasso Méditerranée. Plus de 60 expositions de part et d'autre de la Grande Blonde, on en parlera tout à l'heure. Mm-hmm. Arrêtons-nous donc d'abord à Nice. Succession de chefs-d'œuvre, évidemment. 120 tableaux, dessins, sculptures qui se répondent, qui se croisent, s'entrecroisent entre ces deux géants du XXe siècle, un jeu de miroirs. Ils n'ont pas été montrés ensemble depuis 2002. Figurez-vous qu'ils se sont rencontrés en 1906 chez leur collectionneur commun, on aurait aimé y être. S'ensuit une longue histoire faite de haut, de bas, et à partir des années 40, ils se côtoient plus régulièrement dans les environs de Nice, notamment dans l'atelier de Matisse, juste à côté du musée. Picasso, Matisse, amis et un peu rivaux, explique Caroline Gramont, commissaire de l'exposition.
Ils se sont croisés surtout artistiquement, en fait. Un dialogue artistique qui est constant dans leur œuvre. Et Matisse et Picasso le disent très bien. Hein. Il y a cette anecdote assez représentative de leur relation que j'aime beaucoup. Matisse, qui se promène sur les grands boulevards à Paris et qui croise Max Jacob, le poète Max Jacob, et qui lui dit « Si j'avais pas été Matisse, j'aurais voulu être Picasso ». Et Max Jacob lui répond « Tiens, c'est drôle, Picasso m'a dit la même chose ce matin ».
L'une des plus fructueuses émulations artistiques du XXe siècle, avec une admiration réciproque, on l'a compris, plus ou moins consciente parfois. On va vivre ensemble cette exposition comme un jeu de piste, si vous voulez bien. On va chercher dans les tableaux les dessins des deux artistes, les allusions, les clins d'œil, les croisements, les détails qui montrent qu'ils se parlent à distance, qu'ils se citent mutuellement. L'exemple le plus spectaculaire, fondateur, je dirais même, ce sont ces deux tableaux. Caroline Gramont nous parle d'abord du portrait que fait Matisse de sa fille Marguerite en 1907.
Le portrait de Marguerite, témoignage du premier échange entre les deux artistes. Le tableau que choisit Picasso dans l'atelier de Matisse, c'est ce portrait. Il dira plus tard, je l'ai choisi parce que c'était un tableau clé. Et donc nous l'avons placé à côté d'une des études des Demoiselles d'Avignon. Et on retrouve là, en les plaçant comme ça, côte à côte, beaucoup de points communs, en fait, dans la représentation du visage, des traits, du nez avec un seul trait, de profil, des yeux en amande représentés de manière très très simple, ou alors le détail de l'oreille, comme ça, avec un signe qui est complètement inventé pour une oreille, dans les deux tableaux.
Alors c'est formidable et même impressionnant, on a envie de continuer cette enquête artistique avec vous. Hein.
Allons voir d'autres tableaux. Ouais. Le rêve de Matisse en 1935 répond aux dormeuses de Picasso qui répond à Matisse par la femme couchée lisant en 1935-39. La même posture, femmes allongées, la tête posée sur ses bras croisés, comme une partie de tac au tac. Les deux monstres sacrés travaillent différemment. Henri Matisse, très très proche de son modèle, presque genou contre genou, disait-il. Picasso, lui, se passe de modèle. Il a des muses et ses peintures en rêve. Le dialogue reprend quelques années plus tard avec un retour des deux artistes vers les figures mythologiques. Plusieurs dessins sont troublants. On ne sait plus qui fait quoi. Picasso utilise le trait très fin de Matisse. On entend son coup de crayon. Les pistes se brouillent, des rencontres de tableaux qui en disent plus que de grands discours. Certains de ces échanges échappent peut-être d'ailleurs à notre œil. Mais parfois, dans l'étoile de Picasso, les allusions à Matisse sont directes et ce dialogue atteint son paroxysme. Après la mort de Matisse en 1954, Picasso peint une série des ateliers de la Californie et dans ses intérieurs, il célèbre son ami et rival en intégrant des codes si chers à Matisse.
C'est très touchant Il y a des tableaux de Picasso où on voit un certain nombre de sujets, de thèmes qui sont très très présents dans l'œuvre de Matisse, comme bien sûr la fenêtre, avec le palmier qui se découpe dans la fenêtre, et bien sûr, petit détail, hein, du samovar qui apparaît souvent dans les tableaux ou les dessins de Matisse des années 20. C'est un hommage à Matisse.
Et voilà, visitez cette exposition en cherchant comme ça, ici et là, des petits détails qui montrent que les deux artistes s'admirent et se croisent.
Donc Picasso à Nice, oui, avec Matisse, et Picasso sera absolument partout cette année.
60 expositions en France, mais aussi en Italie, en Espagne, au Maroc, Malte, Turquie, Chypre, Israël, initiative du Musée National Picasso Paris, des rendez-vous jusqu'au printemps prochain. Quelques idées près de chez vous, on ne peut pas tout citer. Au Palais Lumière à Évian, une centaine de peintures, sculptures, céramiques, dessins, gravures et tapisseries autour du thème du Minotaure. Exposition à Valoris, ville où Picasso a vécu et travaillé entre 57 et 55, donné à voir au musée Fabre de Montpellier, Lodève, Montsartou, Alès, plus loin en Espagne au musée Picasso de Barcelone, la cuisine de Picasso, vous le voyez, vous allez vous régaler.
Merci beaucoup Sophie Ange. Il a trop produit en fait Picasso, je suis désolé de dire ça, mais je le pense, en plus c'est invraisemblable, c'est une œuvre monstrueuse, au bon sens du terme.
Mais on peut l'avoir sous plein d'aspects.
Mais bien sûr, c'est formidable. Merci beaucoup. Dans un instant, la télévision, en particulier sur Canal+, avec Picnic à Hanging Rock et une bien charmante comédienne française. À tout de suite.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
La télévision, Isabelle Morini-Bosque. Alors deux temps forts ce soir, le premier c'est Mission Mariage, hein, un programme dans lequel Christina Cordula aide deux couples rencontrant des difficultés non pas sexuelles mais dans l'organisation de leur mariage.
Dans un premier temps. Alors le premier cas montre un couple très sympa devant surmonter une brouille familiale et le second nous fait suivre une belle jeune femme qui en rémission d'un cancer veut offrir à son mari un mariage surprise, la maladie est empêchée, ayant empêché le mariage initial. C'est ce couple-là, absolument magnifique, qui fait que l'on adhère à cette émission produite par Mac Lesguy. Dans cet échantillon, la future mariée évoque le choix de sa robe.
C'est compliqué parce que je la voyais d'une façon, comme les robes bustier, blanches, cintrées sur le haut, découvrir un petit peu des parties de mon corps. Et là, pour l'instant, je suis dans l'inverse, je couvre les parties de mon corps parce qu'elle marque ma maladie, quoi. Ça change tout, c'est la féminité.
Ah. Christina Cordula, qui les décontracte, saura se montrer discrète au bon moment. On a d'abord eu un peu peur d'un excès d'exubérance sur le fond et la forme, certains doutant d'ailleurs parfois de sa légitimité. La question méritait de lui être posée.
Attention, je crois que vous vous trompez un peu parce que je suis cash, je dis les vérités mais avec beaucoup de gants, beaucoup de psychologie. Il ne faut pas que ça blesse les gens. Et ces côtés-là, les gens ils connaissent par mon émission Nouveau Look pour Nouvelle Vie, certes, mais il n'a jamais été aussi évident. Travailler avec l'image de quelqu'un, c'est très fragile. Pour dire ça, ça ne te va pas, il faut venir avec, oui, avec un peu de psychologie. Il ne faut pas vexer la personne. Donc la psychologie, ça a toujours été très présente dans mon travail, en fait. Dans cette émission du mariage, c'est déjà un thème qui me plaît énormément parce que j'ai déjà passé par là. On peut donner des conseils, et je trouve, si on a déjà passé par là, c'est beaucoup plus crédible.
Elle est au micro de Laurent Marsic. La mariée ne porte pas le voile, ce serait dommage que le public, lui, les mette les voiles avant le second cas qui est vraiment touchant.
Et c'est sur M6. Alors, côté fiction, gros plan sur Picnic à Hanging Rock, c'est sur Canal+.
Soit 6 épisodes d'une série australienne tirée d'un best-seller de la littérature australienne, donc déjà adaptée au cinéma en 75 par Peter Weir. L'histoire, en 1900, dans un nouveau collège strict dirigé par une directrice au passé agro passif, elle est incarnée par Nathalie Dormer
Game of Thrones
et de la série Marie Tudor. Des élèves disparaissent au cours d'un pique-nique le jour de la Saint-Valentin. C'est le début d'une histoire mêlant polar, surnaturel et comédie de mœurs. C'est très bien réalisé. Une femme veut connaître la vérité. La prof de français jouée par Lola Bessis, seule française du casting, choisie car bilingue. Elle s'est d'ailleurs doublée dans la version française tournée par Canal. Elle raconte.
Alors moi, c'est la réalisatrice, directrice artistique Larissa Kondraki, canadienne, qui m'avait vue, je crois, dans mon film Swim Little Fish Swim sur Netflix aux États-Unis. Du coup, elle a tout de suite pensé à moi. Mais c'est pas parce qu'elle avait envie de travailler avec moi que ça rendait les choses faciles, parce qu'il y a tout un tas de gens à convaincre, que ce soit le studio, les producteurs, la chaîne et tout. Donc j'ai eu pas mal de castings vidéo. Finalement, on m'a dit oui après 3-4 sessions d'essai. Et après, finalement, on m'a dit non, c'est pas possible parce que les Australiens ont des syndicats, ils sont très protectionnistes et ils veulent pas que des acteurs étrangers jouent même des rôles d'étrangers. Donc ils ont dû voir toutes les Australiennes en mesure de, je sais pas, faire un accent français. Et finalement, ils ont pas trouvé. Ils m'ont rappelé in extremis 2-3 jours avant le début du tournage.
Et elle a été justement époustouflée par ce tournage.
Moi, ça m'a fascinée, mais tout, en fait, les costumes, les décors, les accessoires, c'était pratiquement que des choses anciennes qui dataient vraiment de 1900. J'avais l'impression de voyager dans le temps. Moi, j'adore en plus cette période. En fait, l'école qu'on voit dans la série, il y a, je crois, 4 ou 5 décors différents pour faire l'école. Et c'est que des anciennes demeures très protégées. On n'avait pas le droit de boire même de l'eau à l'intérieur. Il fallait rien toucher. Les assurances prenaient pas en charge tellement tout avait de la valeur. Des papiers peints jusqu'au lustre, tout était magnifique. Les chemises terminée. Et puis la nature, c'était la première fois que j'allais en Australie et je ne savais pas qu'à 40-50 minutes en voiture de Melbourne, une vraie ville construite, on se retrouve dans le bush. Mais pour moi, de mon point de vue, c'était la jungle, quoi. Il y a vraiment une végétation, une faune, une flore complètement ouais, sauvage, quoi.
Et elle sortira le 25 juillet son film, son premier film dont elle a le rôle titre. C'est qui cette fille?
Et ben voilà, le Labé 6.
Merci. On en reparlera lundi prochain parce que c'est une excellente série.
Merci chère Isabelle. Dans quelques instants, on va vous faire gagner des livres et ensuite on va se dire au revoir.
Oui, voilà, oui. Bonne idée. Attends.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
À quel âge, pardon, quel est l'âge de Marion Chenet? J'ai bien fait de travailler. Hein. Oui. Quel est l'âge de Marion Chenet, alias MC Beaton, la créatrice d'Agatha Raisin?
82.
Et ben voilà.
82 ans.
Si vous nous avez appelé au 3210, ben vous avez gagné. Ces deux romans qui paraissent chez Albin Michel, Crime et Déluge et L'Enfer de l'Amour.
Je vous offrirai la quiche fatale.
Ah, volontiers.
Écoutez, hein, oui, mon ami Woodstock et moi-même sommes assez tentés par la quiche fatale. On veut même bien la partager.
Moi, je la prépare.
Merci, chers amis.